Tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Et voilà, et au sommaire de cette émission de Bruit de tôle, commencerons par une rencontre avec Isabelle Loison qui anime des ateliers d'art plastique à la prison de Foix. Puis l'actualité avec un appel de soutien aux militants de BDS Montpellier qui vont donc passer en procès. Le retour aussi sur un fait divers dramatique qui avait été médiatisé en Palestine et donc avec la mort de Riham. Un énième tué aussi ici en France par la police, balle en pleine tête. Les bavures maintenant n'en sont plus du tout. Et puis une réflexion autour des camps avec à la pluie le livre de Michel Agier qui interroge l'existence et la pertinence des camps dans le monde. Nous finirons bien sûr par des petites annonces et vous pouvez nous téléphoner lors du direct le jeudi de 19h à 20h et c'est au 05 61 53 36 95. Voilà, c'est parti.
On écoute la gale, le passage d'une frontière.
Pour mes peines, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi le jour qui m'a amené ici à amorcer mon sursis. Nous n'ont jamais préinscrit en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernemental. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir, lentement c'est carré par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Passe par-dessus peut-être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Une brèche pour une guerre à ciel ouvert. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens. Pour des générations acquises par nettoyage mental. À qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol se foule encore, c'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. De la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber, des racines asséchées de nos précieux oliviers. Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Passe par-dessus tout être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Une brèche pour une guerre à ciel ouvert. Nadine, Bassam, Fadi, Sami, Antal, Zazam.
dans le cadre du festival Résistance, il y a un partenariat régulier avec les prisonniers, la prison qui est juste à côté. Il faut dire que le lieu où se passe le festival Résistance est entre le cimetière et la prison. Et donc ce partenariat avec la prison, c'est à la fois du cinéma, mais aussi avec des travaux d'atelier, de peinture. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'un et de l'autre hein?
Mais oui, tout à fait. Alors, l'atelier d'art plastique a eu lieu depuis...
Enfin, je vais te présenter ce qui se voit.
Oui.
À Isabelle aussi. Hein.
Donc, je m'appelle Isabelle Loison.
Oui.
Je fais cet atelier, enfin, j'anime cet atelier d'art plastique depuis 2009. Et donc, chaque année, au mois de juin, je change les œuvres des détenus, puisque j'ai un atelier avec à chaque fois un projet différent. Cette année, donc, c'était cabinet de curiosité. Et ce qui est mis en place, cabinet de curiosité, c'est celui que j'ai mis en place à Résistance. Et au parloir, en fait, c'est le bestiaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis obligée de faire un projet. Bon, c'est le SPIP, hein, c'est-à-dire c'est cette administration pénitentiaire qui s'occupe des projets artistiques, qui me demande de faire des projets chaque année et de faire aussi un compte-rendu. Et c'est vraiment un plaisir, je dirais, du point de vue symbolique, de voir que non seulement les détenus s'en vont de mon atelier, parce qu'effectivement, comme c'est une maison d'arrêt en général, quand ils viennent pour l'atelier, c'est parce qu'eux, ils ont pratiquement terminé leur détention. Et non seulement ils sortent de la prison, mais ils sortent aussi, leurs œuvres sortent aussi. Donc je trouve ça très joli symboliquement. L'atelier a lieu en fait dans ce qu'on appelle la salle polyvalente à la maison d'arrêt. C'est une grande salle où on n'a pas beaucoup d'eau, par contre on n'a pas le lavabo qui est dans une autre salle. Mais bon, on prend des bouteilles, on prend un récipient pour mettre, voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est assez grande et donc on peut vraiment avoir de la place. Et c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle le format raisin, donc 50 par 65. Et donc, il faut effectivement une grande table et puis de la place pour les différentes techniques, hein, que ce soit la gouache, quelquefois c'est de l'huile. Mais cette année, il n'y en a pas tellement eu, en fait, c'était plus des dessinateurs. Alors, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que chaque année, c'est différent.
Ce sont eux qui choisissent ou tu proposes, toi, des formations à toutes les techniques hein?
Alors, en fait, il y a toutes les techniques qu'ils peuvent trouver, je dirais, dans l'atelier. Quelquefois, je leur propose de l'encre parce que, par exemple, j'amène un livre sur la Chine, sur les calligraphies chinoises. Et alors là, effectivement, j'amène les calames, hein, qui sont des bambous biseautés. Et donc, quelquefois, on a des caractères chinois qui arrivent, des paysages aussi, un petit peu atypiques. Et puis... il y a aussi leur envie de faire quelque chose d'original. Là,
mais
par exemple,
oui. Ta base de travail, je t'ai coupé là.
Mais c'est pas grave.
Vas-y, continue pour les
autres. Non, par exemple, cette année, j'ai eu un maquettiste qui a fait une maquette de voiture. C'est un fou de voiture, et donc il m'a fait une voiture en maquette avec du carton, des tas de trucs qu'il a récupéré dans sa détention. Et il me l'a amené à la fin, quand il est parti, juste avant de partir, il me dit, ben voilà, je ne sais pas comment tu vas l'exposer, mais enfin, comment vous allez exposer, parce qu'on se voit hein, quand même, on ne se tutoie pas. Et donc, je l'ai mis effectivement au mur, voilà. Et ça fait très, très, voilà, ce sont des choses singulières qui me plaisent beaucoup, parce que ce n'est pas forcément fait aussi dans l'atelier même, quelquefois c'est fait aussi dans leur cellule. Et souvent, ils m'emmènent des feutres, des stylos, voilà, pour pouvoir continuer. Et je leur offre de toujours de façon, à chaque fois la première fois qu'ils viennent, je leur offre au moins un crayon, une gomme. Et ensuite, ils peuvent demander des quelques crayons de couleur qui me reviennent de toute façon, parce que quand ils partent, ils me le font repasser par l'administration. En général, ça se passe très bien. Mais de toute façon, il faut toujours quand même réassortir hein, le matériel, parce que c'est quand même plus agréable pour eux d'avoir du matériel neuf. Donc chaque année, il y a un petit réassort de crayons de couleur, de pastels secs, de pastels gras. Les encres, ça va, c'est, comme c'est des grandes bouteilles, on a de la gouache, évidemment. On a des petites aquarelles et on a du fusain. Et voilà, en gros, c'est comme ça qu'on travaille. Et de l'huile, évidemment, avec des toiles. Voilà.
Et je voulais dire, donc ta base de travail, toi, tu, quand tu dis on travaille sur le vestiaire ou sur le cabinet de curiosité, toi, tu amènes, alors, tu te, comme support, tu ne peux amener que des livres, tu ne peux pas leur présenter une vidéo, des choses comme ça.
Voilà, non, on n'a pas le droit à la vidéo, mais on a le droit aux livres.
Alors, donc, tu leur présentes, toi, des artistes contemporains, des travaux.
Exactement. Ouais. Mais par exemple, il y en a qui me demandent. Moi, en général, par exemple, par rapport... au bestiaire, c'est vrai que je leur apportais pas mal de livres où il y avait des carnets de voyage en Afrique, par exemple, hein, où il y avait tout ce qui est animalier, mais aussi, il y en a qui me demandent, par exemple, Rudy m'a demandé Bruegel. Pourquoi ? Parce qu'il vient du Pays-Bas. Il avait vraiment envie de revoir son pays, quelque part. Et il m'a parlé, d'ailleurs, que dans certaines places aux Pays-Bas, il y avait encore des gibets. Ce que je ne savais absolument pas, hors d'Ambreguel, c'est plein de gibets partout. Et je ne comprenais pas pourquoi il me dit, mais c'est comme ça, ils ont gardé encore le gibet. Et quand j'en ai parlé à certains, ils ne savaient même pas ce que c'était. Parce que c'est vrai que ce mot gibet, c'est quand même pas quelque chose que l'on dit souvent. Et voilà, donc Rudy nous a amené quelque chose de tout à fait spécial. Et souvent, ils ont des choses singulières. Alors, par rapport à la voiture, moi, je n'avais pas grand-chose à apporter, mais j'ai quand même apporté du pop art, c'est-à-dire ce côté populaire, voilà, Andy Warhol. Voilà. Et à chaque fois, j'essaie de les écouter pour voir eux ce qui pourrait les intéresser. Et quelquefois, je leur amène quelque chose que j'ai
découvert. Comment ça se passe justement la première fois que tu reçois la personne ? Parce qu'en en fait, ils ne viennent pas tous, ils ne démarrent pas tous au même moment l'atelier.
Absolument.
Donc d'abord, combien il y en a ? Ils demandent l'autorisation de venir. Et après, comment tu arrives à les intégrer dans le travail, dans le cours, quoi ?
Alors, écoute, c'est beaucoup de chance. À chaque fois, j'ai un cœur, ce que j'appelle un cœur, qui vient d'une façon régulière. Donc, c'est jamais des gens totalement nouveaux à chaque fois. Et c'est ça qui amène cette proximité, ce lien avec les autres, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, où ils en sont, s'ils ont commencé quelque chose, ce qu'ils veulent. Et donc, ça amène ceux qui arrivent, qui sont complètement, effectivement, premier temps. Bon, ils ne savent pas trop où sont les pinceaux, où sont les ceci, cela. Donc, il faut tous les amener. Voilà, ou même ce qu'ils ont envie de faire. Et petit à petit, alors ce lien, le fait qu'il y en ait deux ou trois qui savent très bien faire déjà, qui sont très, très, comment dire, très à l'aise, eh bien, ça met à l'aise tout le monde, en fait.
Ils connaissaient déjà le dessin, la peinture ?
Eh bien, non, justement, pas forcément.
Voilà, c'est ça.
Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y en a souvent qui me disent, bon, je viens, mais je ne sais pas dessiner. Mm-hmm. Et la première chose que je leur dis, mais si vous avez écrire, vous savez, ce n'est qu'une ligne. Hein. On fait des lignes. Alors, ça peut être l'écriture et ça peut être petit à petit un dessin. Et il y en a un qui m'a fait d'ailleurs une étude qui est au parloir, une étude d'un portrait de Matisse. Mais il n'en est pas revenu. Je sais qu'il en parlait encore quand je suis partie là en juillet. Lui, il est sorti. Et il a dit, un de ses compagnons, justement, il a dit, mais enfin, c'est incroyable parce que je ne me savais pas capable de faire ça. Ce talent, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, ben voilà, ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi on est là, je dirais, c'est pour leur permettre d'abord de ne pas s'ennuyer, mais aussi de trouver quelque chose de nouveau sur eux-mêmes et puis sur leur sensibilité, car c'est une étude extrêmement sensible au crayon, hein, tout simplement. Et je lui ai montré l'estompe. L'estompe, donc, c'est un buvard très compressé pour faire les reliefs, pour faire les ombres. Et rien qu'avec ces deux choses, il a fait un portrait, mais vraiment très, très expressif, très intéressant. Et voilà, c'est pourquoi je suis là. C'est pour ces surprises, et puis leur apporter, oui, un certain bien-être, une certaine amitié aussi, puisqu'il se dégage que souvent, lorsqu'il y en a un qui arrive, il vient les compagnons, parce que c'est quand même une petite prison, ils ne se connaissent pas tous, mais quand même beaucoup. Et donc, ils arrivent à ce que d'autres détenus qui sont intéressés viennent, parce que par oui dire, ils ont entendu parler de cet atelier d'art plastique.
Et là, si c'est une maison d'arrêt, ce sont des courtes peines, ou tu les as maximum combien de temps
Alors, ah oui, je ne t'ai pas dit, en fait, ils sont 9 maximum. Hein, mais en nombre, je ne peux pas en avoir plus, mais en fait ils sont rarement 9, en fait ils sont plutôt 6 ou 7, et quand ils viennent effectivement assez régulièrement. Il arrive qu'il y en ait qui viennent une fois, que ça ne leur plaise pas, mais en général ils viennent au moins pour une ou deux créations.
Et pourquoi tu dis que c'était quand ils sont en fin de peine, parce qu'au début ils n'ont pas de droit?
Ben, si tu veux, en général ce qui viennent, c'est surtout ceux qui sont jugés. J'ai peu de prévenus, j'ai peu de gens qui ne sont pas jugés.
Parce que c'est aussi, il y a des gens qui
jouent voilà,
à la maison d'arrêt.
Voilà, il y en a qui sont pendant très peu de temps, mais par exemple, David, il est venu en tant que prévenu. Il a été jugé à foie, et donc il a continué à venir jusqu'à ce qu'il soit mis dans un autre centre de détention pour longue peine. Et il m'a fait un joli petit mot en partant en disant merci beaucoup pour ces 2 ans, car il a suivi. Mais vraiment, tous les mercredis, il était là. Ça a été vraiment une grande rencontre.
Et 2 ans, c'est un peu des maximums
c'est oui, c'est quand même un maximum. C'est quand même un maximum parce qu'en général, ça tourne beaucoup. Et puis, ils ont aussi d'autres choses. Souvent, ils ont ils font classe. Hein. Ils ont des classes, ils ont des écoles. Qu'est-ce qu'ils ont encore de l'informatique, ils se remettent à niveau pour recontinuer quelquefois des études ou des formations. Donc c'est vrai que moi c'est plus pour le plaisir un petit peu de venir, de rencontrer quelque chose de nouveau quelquefois. Mais souvent ils préfèrent la muscu, ils préfèrent la récré, voilà, des choses comme ça. Mais enfin je ne viens quand même que tous les mercredis de 14h à 16h, tous les 15 jours. Donc ils ont quand même grandement le temps de faire autre chose par ailleurs. Donc en général quand ils aiment vraiment ce qu'ils font, oui, ils viennent très régulièrement, oui, oui.
Et donc là, on a parlé de l'atelier que toi, tu animes. Et maintenant, on pourrait parler de cette collaboration avec le Festival Résistance, et qui existe depuis de nombreuses années aussi,
oui.
Par le cinéma. Alors, comment oui. ça se passe? J'ai entendu à la conférence de presse, Marlène qui disait que pendant 1 ou 2 mois, ils venaient presque toutes les semaines pour présenter des films.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas toute l'année, c'est à partir de ce qu'on choisit comme film, hein, si on a suffisamment, et c'est des films avec des réalisateurs, parce que ce qui nous intéressait, c'est d'amener les réalisateurs dans la maison d'arrêt pour en parler avec eux, pour parler vraiment technique cinéma, et qu'il y ait des études donc, qui sortent, ceux qui pouvaient. Et alors, le problème de cette année, ben, c'est qu'il est sorti avant. Voilà, donc on ne l'a pas pour l'instant. Les autres n'ont pas eu le droit de sortie, puisqu'il faut effectivement... Donc, en général, il y a 4-5 films, quelquefois des courts-métrages,
qui
leur sont présentés. Et on discute avec eux de ce qu'ils préfèrent, etc. Il y a un vote à la fin, évidemment. Et à partir de ce vote... le réalisateur vient, donc là il y avait 6 personnes. On dirait que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est beaucoup. Il faut pas croire que ce soit des... c'est pas si simple de les faire sortir en fait. Ils ont eux-mêmes leurs propres envies et quelquefois ils sont pas bien, quelquefois ils ont besoin de respirer autrement. C'est pas si simple, on a cette impression.
L'intérêt quand tu dis six personnes, mais c'est jamais les 6 mêmes. Donc,
ah non, c'est jamais les 6 mêmes.
Si on regarde depuis que ça se passe, il y a déjà 20 ou 30 personnes
qui ont été concernées. Oui, oui. De toute façon, c'est toujours quand même intéressant d'ouvrir, je veux dire, cette perspective culturelle, aussi peu soit-il. Je me souviens très bien que quand j'avais commencé à la protection judiciaire de la jeunesse dans un foyer, Evelyne Frémont, qui avait été la seule à me dire « ok », je me souviens, c'était à Villiers-le-Bœuf, je ne sais plus exactement où c'était, mais dans une banlieue, elle m'avait dit « mais même s'il y en a un, il faudra continuer à venir parce que c'est important ». Et je pense qu'effectivement, s'il y a un désir, je pense que déjà, c'est une telle rencontre avec quelque chose qu'ils ne pourraient peut-être pas faire ailleurs, c'est bien.
Surtout, ça casse de l'ambiance de l'habitation.
Oui,
c'est surtout ça. Et donc, le cinéma, oui, cette année, alors, il a été... il y avait un film qui a été choisi, mais il n'y avait pas le réalisateur.
Il n'y avait pas le réalisateur, donc on a vu les... Ouais, je ne me souviens plus. Je vais retrouver... Alors, le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Je n'étais pas là pour... je vais te le dire. C'était... Je n'ai même pas mes lunettes. Voilà. Non, mais ça y est, c'était les gardiens du Nouveau Monde.
Oui,
voilà.
Les gardiens du Nouveau Monde.
C'est sûr, c'est les nouveaux hackers.
Ah oui, ça les intéressait.
Mais oui, je pense. Hein, ce reportage raconte l'émergence d'une nouvelle génération de hackers activistes. Mais ce qu'ils avaient pris, je crois, c'est...
le truc de l'Inde.
Le truc de... Voilà, c'est-à-dire Himself e Cooks, de Valérie Berthaud et Philippe Witch, qui est la préparation et la dégustation en collectif d'un repas pour 100 000 convives en Inde. Et c'est un repas sikh, ce que j'ai su par une amie après. Moi, je ne savais pas du tout. Donc, je pense que c'est plutôt dans le nord de l'Inde, puisque les sikhs ont leur grand,
oui,
leur grand temple.
Depuis 600 ans.
Oui, oui, oui.
100 000 personnes tous les jours.
Pas tous les jours. Hein.
Ah, si, pendant une période.
Pendant une période, tous les jours. Oui, oui, d'accord, oui. Pendant une période,
ils avaient été intéressés par ça. Mais ils discutent entre eux dans le vote, ils expliquent leur vote.
Absolument, ouais, absolument. Et je me souviens que la dernière fois, moi, je n'y suis pas allée cette année.
L'année dernière, c'était le facteur
voilà.
qui était dans le désert.
Voilà.
Ouais.
Et c'était une femme qui était venue, une Italienne.
Oui, oui. C'est magnifique. Elle avait déjà travaillé à Rome avec la prison.
Tout à fait. Elle s'était attachée vraiment à un détenu qui lui avait vraiment semblé... voilà, comprendre vraiment son sentiment et son trajet. Mais souvent, ils ont une sensibilité, quelquefois exacerbée d'ailleurs, par le fait que l'on ne parle pas trop avec eux de tout ça, de toute cette culture.
Qui est disponible, justement.
Qui est disponible, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand même, il y a de la musique, il y a un atelier musique, il y a aussi une bibliothèque... voilà, il y a quand même certaines choses, mais c'est vrai que moi, je regrette un peu qu'il n'y ait pas de théâtre, hein, par exemple. Il y a des ateliers d'écriture, quelquefois, il y a du slam, mais le théâtre, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'en avais fait à Fresnes et à Florine et Rogis un moment, et c'est vrai que ça comporte vraiment beaucoup aussi d'intérêt. Ça les remet aussi dans d'autres personnages, dans un autre monde, et ça les fait voyager.
Et là, il faut un suivi, parce que souvent, le but, c'est de répéter et d'arriver à avoir une pièce de théâtre.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on le fait plus souvent dans des centres de détention de haute peine plutôt que dans les maisons d'arrêt. C'est vrai. C'est vrai.
Ça n'efface pas les murs, mais...
Ça n'efface pas les murs, mais en ce moment, c'est vrai que comme j'ai fait beaucoup de voyages, de... carnet de voyage, c'est vrai que je leur apporte quelquefois ce que j'ai fait, et puis bon, ben, ils sont toujours très contents d'être proches de ce qu'on a fait de l'extérieur, en fait, de l'extérieur, parce que les animes, oui, tout à fait. Et quand je vais à Toulouse, souvent je leur amène des cartes postales de ce que j'ai vu et des ateliers et des galeries. Je vais souvent au musée des abattoirs, par exemple, et il y a pléthore de livres là aussi, et je pense que ce qui est très intéressant dans l'art contemporain, c'est que quelquefois ils me disent mais qu'est-ce que ça veut dire, parce que quelquefois c'est très conceptuel, et donc on peut parler vraiment de choses tout à fait nouvelles pour eux. Ça aussi, c'est vraiment des découvertes assez passionnantes.
Dans l'exposition, eux, ils sont pas c'est pas très très abstrait, ils sont pas trop,
voilà, non, ils non. sont plus liés, même s'il y a quand même un collage, hein, qui
mais,
est
qui reste figuratif, qui a
voilà,
des choses à dire,
voilà, qui a des choses à dire, qui est sur la parole. Sinon, oui, effectivement, il y a eu aussi une construction de Tatlins, là, hein, qui est le constructiviste russe. Et alors, il a trouvé ça, Georges, je crois. Je ne sais plus qui c'était. Je ne sais pas si c'est Georges ou quelqu'un d'autre. Mais enfin, il a trouvé ça dans une revue, mais ça ne payait vraiment pas de mine. Et il me dit, ah, je vais prendre un calque et je vais le faire parce que ça m'intéresse. Et après, il a fait quelque chose de tout à fait autre, qui était des bouches de geisha. Et c'est ça,
oui,
moi, qui est aussi très intéressant. C'est le fait qu'ils peuvent se partir. partir comme ça dans des thèmes complètement différents, suivant ce qu'ils voient en revue, parce qu'on a beaucoup de géo, par exemple. Je retrouve, quand je vais dans des bibliothèques, des fois, ils enlèvent énormément de revues, et donc tous les géo, toutes les revues de reportage, ils adorent ça, parce qu'ils adorent chercher justement des thèmes différents. Et j'aime beaucoup justement cette surprise aussi qu'ils ont par rapport à ce qui se passe et à leur manière aussi de faire des compositions très différentes et surtout à la couleur.
Est-ce que tu as fait avant dans ta formation des ateliers avec des personnes non incarcérées et dire comment la différence est sur le contact et sur quoi ? Pas sur le résultat, je pense pas.
Oui. Je dirais que pour moi, tous les gens qui viennent à l'atelier, je les prends comme des artistes à part entière. C'est ça qui m'aide d'ailleurs à ne pas les voir. Ce que j'ai fait à Paris, j'ai eu des ateliers d'enfants autistes, par exemple.
Encore un enfermement.
Voilà, qui est un enfermement de la communication. Et comment on arrivait, enfin parce que j'avais toujours des stagiaires avec moi, hein, parce qu'ils étaient 4 ou 5, il y en avait qui étaient très réceptifs et très sages, si j'ose dire entre guillemets, et d'autres extrêmement pris par l'action. Et ce qui était intéressant là aussi, c'était plus dans la pulsion dans ce cas-là. Hein, c'était des travaux où on travaillait beaucoup sur l'action et la pulsion. Et par contre, j'ai travaillé aussi ma protection judiciaire de la jeunesse. Et là, c'était plus des jeunes dans une grande difficulté de dire en fait ce qu'ils avaient, et même de tracer des lignes. C'était comme s'ils avaient perdu le fil de leur pensée quelque part. Hein. C'était dans le chaos. Là, on travaille vraiment avec un certain chaos. Ce qui n'est pas forcément pareil pour les adultes.
Voilà, ce sont des adultes qui savent pourquoi ils sont là. Et ça se passe bien aussi parce que c'est une petite prison. Oui. Avec les autorités, il n'y a pas de...
Oui, oui, mais on a eu...
Ils peuvent venir ceux qui veulent ou peut-être qu'il y a des fois des sanctions. Non, ça dépend.
Non. Alors moi, je n'ai pas le droit de choisir. Hein. C'est eux qui font la demande pour aller dans un atelier, et c'est l'administration qui fait la liste. Voilà. Alors, quelquefois, j'ai des demandes par moi-même, parce qu'ils m'emmènent des petits papiers, l'administration n'a pas le temps, donc elle me le met dans ma boîte aux lettres, et à ce moment-là, je demande à M. Kibati, en général, de marquer le nom sur la liste, et en général, c'est accepté quand même. Oui. Il y a quand même beaucoup de liens très, très... Voilà, je dirais pas amical, mais même amical, oui, je dirais de confiance, voilà. D'accord. Et la confiance se fait dans ce lien-là qui arrive petit à petit, mais s'il n'y avait pas de lien de confiance avec cette administration, je dirais que je ne pense pas qu'il y en aurait avec les autres personnes.
Moi, ce que je trouve, c'était... c'est un peu le côté un peu modeste de l'exposition. Je ne sais pas, l'estive, c'est grand, est-ce qu'il n'y aurait pas envie de... Et même d'être en bas, si on le réservait à des photographes professionnels ou d'autres, de donner une autre place, non ?
Bah, je trouve que cette place est très lumineuse. Elle est devant des baies.
Elle est assez discrète quand même.
Elle est discrète, mais sinon, je trouve que les murs où on a mis, par exemple, les photos ici, ne sont pas très... voilà,
c'est
pas très éclairé.
Non, ça pourrait se travailler.
Parce qu'en bas... Oui, alors écoute, c'est vrai que tu me le dis à chaque fois.
Toujours, j'ai envie de ça.
Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'en bas, il y a effectivement des expositions liées vraiment au thème. Mmh. Et ici, là aussi, ça serait un petit peu là aussi en à retrait. L'extérieur, encore plus en retrait. Donc en fait, je ne sais pas trop.
Tout à fait de lieu d'exposition.
Il faut qu'on en rediscute. On ne sait jamais si on retrouve un autre lieu. Mais pour l'instant, je suis assez contente d'être quand même... ailleurs que dans ce couloir de la restauration qui était quand même encore moins bénéfice pour tout le monde puisque il y avait peu de monde qui venait en fait au restaurant.
De toute façon, là où c'est installé, il y avait déjà eu une œuvre de Claude Duchesne.
Voilà, exactement.
Il y a eu d'autres personnes aussi qui étaient intervenues. Avant.
Exactement. Donc je pense c'est je peux pas tout mettre non plus de leurs œuvres, mais il y a une certaine ça se fait automatiquement, je dirais.
Je te remercie beaucoup
pour
cet entretien.
Merci.
Mais les musiques comme ça romantiques, ça me fait chier.
voilà, après cette parenthèse culture, on va revenir sur la culture de la répression, qui est plus du domaine de l'émission Bruit de tôle. Et ben là, c'est les militants de BDS. Alors BDS, je rappelle que c'est une campagne de boycott, désinvestissement, sanctions, et qui est à l'appel d'organisations palestiniennes qui demandent aux sociétés civiles du monde entier eh bien, de sanctionner l'État d'Israël jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et qu'ils respectent les préceptes du droit international, donc fin de la colonisation, égalité absolue pour les Palestiniens d'Israël et retour des réfugiés de 48. Ça, c'est la base donc, d'appel de ce boycott et qui est calqué un petit peu sur ce qui s'était fait avec l'Afrique du Sud pour dénoncer l'apartheid, et là c'est bien l'apartheid que subissent les Palestiniens en Israël. Alors, cette campagne BDS, eh bien, il y a des militants, ils ont un site, etc. Et des militants se sont fait piéger, en fait. C'était à l'été 2014, en plein pendant les bombardements israéliens qui reprenaient sur Gaza. Ils ont reçu un poste, ils appellent ça, sous forme d'un dessin. Et ce dessin, en fait, dénonçait les financements qui sont faits, les appels à financer l'armée israélienne. Alors, on le sait, puisqu'en France, il y a beaucoup de galas là-dessus. Et il faisait une comparaison avec ce que faisait également aussi pour financer l'armée de l'Allemagne nazie. Et on retrouvait, voilà. Manque de peau, c'était un piège, c'était un faux dessin. Et derrière ce dessin, si on cliquait dessus, apparaissait un texte complètement raciste, négationniste, antisémite, etc. Donc ils n'étaient pas au courant de cela. C'est alerté par un de leurs militants qui lui avait été alerté par la présidente de la LDH34. Donc dès qu'ils ont vu ça, ils ont immédiatement enlevé le dessin de leur site ou de leur page Facebook, pardon. Et surtout, ils se sont expliqués largement devant les médias locaux, etc., pour dire qu'en effet, c'était pas du tout leur propos et qu'ils s'étaient fait avoir. Malgré cela, eh bien, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, comme si c'était un petit peu son travail, je ne sais pas, bien, a porté plainte contre ces deux militants, puisque les pages Facebook étaient leur page, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que cette plainte a déclenché le fait que la LICRA, donc la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, déclenche une accusation. Alors l'accusation n'est pas mince, hein, quand même, parce que c'est apologie de génocide et de négationnisme, rien que ça. Et puis surtout, derrière la LICRA et la LDH sont arrivés Avocats sans frontières de Gold Nadel, qui lui est un membre du comité directeur du CRIF. Et aussi, il est l'avocat, on en avait parlé, du hacker Ulkan, qui a sévi, n'est-ce pas, contre les gens qui défendent les Palestiniens, et notamment les gens de l'UJFP. Et tout cela se sont portés donc partie civile aux côtés de la LDH. Et le procès aura lieu le 12 novembre 2015. Et en fait, il s'agit de criminaliser cette campagne, de dire que cette campagne, ce sont des antisémites, qu'ils veulent la fin d'Israël, etc. Et tout. Alors, ce qu'ils demandent, c'est que quand même la LDH retire sa plainte et se retire des parties civiles, hein, et notamment les réhabilite, puisqu'elle peut prendre en compte justement les faits qui ont été bien expliqués. Et puis aussi soutenir cette campagne qui, elle, est attaquée par toutes les officines sionistes et autres organismes pro-israéliens qui défendent la colonisation. Et justement, je crois qu'on va poursuivre avec un méfait des colons en Israël.
Et oui, donc un communiqué de l'Union juive française pour la paix, du coup daté du 8 septembre, qui nous apprend la mort de Riam Dawabché. Alors, Riam Dawabché était la maman d'Ali Dawabché, ce jeune enfant de 18 mois, brûlé vif dans l'incendie criminel de la maison familiale le 31 juillet dernier, dans le village de Douma, en Cisjordanie occupée. Riam Dawabché était l'épouse de Saad Dawabché, le père d'Ali, lui aussi décédé des suites de ses blessures, en août dernier. Tous les trois, victimes de la haine des colons racistes de la colonie proche de Malé Ephraim, membres du mouvement fasciste Tag Mekir, le prix à payer, qui, rappelons-le, sont à ce jour toujours en liberté. Aucune mesure, aucune sanction n'a été prise à ce jour contre ce mouvement. Fin juillet, l'émotion et la stupeur provoquées par ce crime atroce bouleversaient le monde entier, suscitant de nombreuses interrogations à propos du discours israélien officiel, affirmant sans vergogne être un pays démocratique, le seul, plus exactement, de tout le Moyen-Orient. Le gouvernement israélien s'était alors fendu d'un message de condoléances à la famille encore en vie d'Ali. Ses agents français du CRIF avaient fait de même. Le gouvernement français s'était dit profondément ému. Puis les événements ont repris leur cours normal. bombardements réguliers sur Gaza et leur lot de morts supplémentaires, de villages et de maisons palestiniens détruits. Dans les villages des Bédouins palestiniens du Negev, dans les villages de la Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est. Et nous sommes informés par l'ONU des projets israéliens de détruire dans les prochains temps 13 000 autres structures palestiniennes en Cisjordanie occupée. Les arrestations et l'emprisonnement des résistants palestiniens se sont poursuivis. Rien de quoi émouvoir outre mesure la communauté internationale complice. La mort de Riam Dawabche nous rappelle douloureusement que l'occupation, avec son cortège d'exactions, est toujours en vigueur, l'infernal blocus de Gaza aussi. L'apartheid reste le dénominateur commun du régime colonial qui programme, organise et permet tout cela. Et comme tout régime colonial, seul le colonisé est coupable d'exister. Le crime du colon reste toujours impuni parce qu'il fait partie du système. Donc c'était l'extrait d'un communiqué de l'Union juive française pour la paix.
Voilà, et on va partir également, on va aller du côté de Lyon, puisqu'il y a eu encore une personne qui a été assassinée par la police. Il s'agit de Mehdi Bouhouta, qui avait 28 ans. On va écouter tout d'abord la réaction de son frère, une réaction à chaud, mais néanmoins perspicace.
En fait, je travaillais dans un snack, il est venu manger dans mon snack. Après, vu que je savais qu'il était recherché par la police, ils sont passés en bas. L'inspecteur, en fait, qui lui a tiré dessus, il est passé devant moi. Je lui ai dit de monter vers chez moi, de se garer vers chez moi, de m'attendre chez moi. Et mon frère, en fait, il est monté devant chez moi, il s'est garé devant chez moi, mais il n'est pas rentré chez moi, en fait. Et l'inspecteur, là, il est arrivé, il l'a trouvé là-bas en haut. Ça fait, mon frère, il a voulu, pour se sauver, il a voulu pousser l'autre voiture de police, et le policier, il a tiré deux balles à travers la vitre.
Ça, vous l'avez vu de vos yeux ?
Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais tous mes amis, mes voisins, ma femme, par la fenêtre, tout le monde l'a vu de leurs yeux.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, à ce moment-là, mon petit frère, il y a une des balles qu'il a eu dans la tête. Ça fait, il est tombé au volant. Et de là, ils sont venus, ils ont bloqué tout le secteur. Ils ont bloqué tout le secteur.
Et donc,
ouais, de là, en fait, après, ça fait, ils sont venus, ils ont tout bloqué. Moi, je savais que c'était mon petit frère, je voulais avoir des nouvelles, je leur demandais qu'est-ce qu'il a mon frère, ils m'ont dit, t'inquiète pas, ton frère, il a rien, mais vous lui avez tiré dessus ? Non, il lui a pas tiré dessus, il s'est, en nous percutant, sa tête, elle a tapé en gros le volant, il a une bosse, il va bien, il a rien du tout. On arrive ici à l'hôpital, on nous dit que mon frère, il a pris une balle dans la tête, ça a éclaté tout le cerveau. Voilà. Après, maintenant, la vérité, on va bien la savoir, de toute façon. L'inspecteur de là, quand il a tiré, je sais pas comment ça se fait, un inspecteur qui tire et qui sait qu'il n'a pas tiré pour rien, que quand il se retrouve devant un homme armé, vu que c'était pas le cas, mon petit frère, il était juste en cavale, c'était un jeune qui était là, c'était un bon jeune. Ben maintenant, à cause de ce policier, il n'y a plus rien, il est parti. C'est tout.
Il était armé, votre frère ?
Non, aucune arme, rien du tout. Zéro. Il venait me voir. Pas venir avec une arme. Pourquoi faire avec une arme ? Il n'a pas besoin d'arme. Mon frère, il fait quoi, lui, il tournait de partout, il même des contrôles, pour vous dire, il était en cavale, des contrôles, il s'est fait contrôler, il est passé au travers. Il avait une carte d'identité d'un de ses copains, il l'a donné, il lui ressemblait. Pourquoi vous voulez qu'il tourne calibré ? Il ne tournait pas calibré, mon frère, s'il tournerait calibré, déjà, ça fait 7 mois qu'il est dehors, il est en cavale, il aurait déjà fait des braquages et tout, et c'est même pas le cas, il n'est ni braquage, ni rien du tout, il n'y a rien.
Voilà, donc là c'est le témoignage du frère de Mehdi Bouhouta, donc 28 ans, qui a été assassiné par la police. Donc c'était jeudi dernier, jeudi 3 septembre, dans l'après-midi. Ça s'est passé à Sainte-Foy-les-Lyon, dans le Rhône. Et donc il a été donc tué par balle en pleine tête par un inspecteur de la police de la ville d'Oulin. Et Mehdi, en fait, c'est pas un cas isolé du tout. C'est la quatrième personne assassinée par la police française dans le Rhône. On parle juste dans le Rhône en moins d'un an. Et donc, même si les médias et les politiques s'insurgent des meurtres policiers aux États-Unis, quand ça se passe en France, et ben, les mêmes médias et les mêmes politiques s'acharnent à démontrer que les personnes n'étaient que des délinquants qui auraient eu que ce qu'elles méritent. Et en fait, la mort de Mehdi n'est pas un cas isolé, comme je le disais. Le 31 mars 2015, dans le 5e arrondissement de Lyon, la police prend en chasse un jeune de 30 ans et le pousse vers la mort. Le 17 février 2015, à Romans-sur-Isère, c'est Eliès, 14 ans, qui fait le tour d'un parking en voiture et la BAC le prend en chasse. Il percute un arbre et meurt sur le coup. Le 17 octobre 2014, dans le 7e arrondissement, un équipage de 4 flics armés de taser assassine pourtant par balle de 4 balles dans le dos un homme de 42 ans en crise psychotique. Et depuis 2000, c'est plus de 127 personnes qui ont ainsi été tuées par la police en France. Donc voilà, alors à chaque fois les médias s'empressent de faire le CV des personnes qui se sont fait tuer ou qui se sont fait mutiler. Par contre, on n'a jamais aucune information sur les flics et c'est toujours complètement biaisé. Donc voilà, encore une histoire glauque, mais on espère que pour une fois la vérité sera faite. On a quand même des doutes.
Oui, mais en plus, je ne vois pas à quoi ça sert de faire le CV, parce qu'il semblait qu'en France, pays des droits de l'homme, la peine de mort était abolie.
Oui, c'est ça. Oui. Voilà. On est d'accord. Donc voilà, c'est une info qui vient de Rebellion et qui a été, qui a un petit peu tourné.
Alors, on va continuer du coup avec la lecture d'un entretien avec Michel Agier, qui est anthropologue et qui a dirigé l'ouvrage Un monde de camp, qui est paru à la Découverte en 2014. Donc, cet entretien a été réalisé alors que 4 millions de Syriens sont réfugiés au Liban, en Jordanie et en Turquie voisine. Donc, c'était un petit retour sur le phénomène des camps. En théorie provisoire, ces lieux qui regroupent près de 20 millions de personnes sont l'un des nouveaux visages de la société mondiale. D'ailleurs, c'est un entretien que vous pouvez retrouver sur le site, le journal CNRS. Vous parlez dans l'ouvrage Un monde de camps d'un encampement du monde. De quoi s'agit-il exactement ? Les camps sont en train de devenir une composante majeure de la société mondiale et le lieu de vie de près de 20 millions de personnes ayant fui les conflits, la misère ou les catastrophes écologiques. Les 460 camps de réfugiés situés au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est, Soudan, Kenya, Éthiopie, République démocratique du Congo ou encore au Pakistan, abritent entre 5 et 7 millions de personnes poussées par la guerre hors de leur pays. Le plus grand, le camp de Dadaab au Kenya, regroupe à lui seul 450 000 personnes, l'équivalent d'une ville moyenne en plein milieu du désert. Les camps de déplacés internes, qu'on peut évaluer à 1500 faute de données officielles, comptent au moins 6 millions de personnes. Rien qu'en Haïti, 400 lieux de ce type abritent encore 400 000 habitants déplacés à la suite du séisme de 2010. Encore plus difficile à chiffrer du fait de leur clandestinité, les camps de migrants auto-installés seraient plusieurs milliers à l'échelle de la planète, dont une bonne part en Europe. Ces regroupements de petite taille, qu'on appelle aussi ghettos ou jungles, sont installés le long des frontières ou dans les interstices urbains, dans des friches sous des ponts, à l'instar des campements de migrants afghans de Calais et de Dunkerque, ou des campements roms de la région parisienne. Un certain nombre de pays, notamment européens, ont eu tendance à utiliser la solution des camps comme une politique par défaut. Pourquoi cette multiplication des camps ? Le phénomène de massification date de la fin de la guerre froide. Une certaine ouverture du monde, l'utopie du village global, ont donné le sentiment d'une plus grande facilité à circuler qui a gagné l'ensemble de la planète. Parallèlement, l'essor des transports, aériens mais aussi terrestres, a favorisé les flux à toutes les échelles, régionales, nationales et internationales. En Afrique notamment, le réseau routier s'est considérablement développé et le nombre de véhicules a explosé. Ajoutez à cela le marasme économique des pays du Sud et toutes les conditions de la mobilité sont réunies. Face à cet état de fait, un certain nombre de pays, notamment européens, ont eu tendance à utiliser la solution des camps comme une politique par défaut, ne sachant pas comment empêcher ce qu'ils considèrent comme un problème. Des gens qui se déplacent, passent des frontières. Les camps sont leur façon de gérer les indésirables, le rebut où finissent les personnes qui ont passé tous les filtres. Car une chose est sûre, quelles que soient les lois ou les règlements, on ne pourra jamais empêcher les humains de se déplacer. Vous évoquez dans le livre deux autres types de lieux, les centres de rétention et les camps de travailleurs. Ce sont des formes de camps en plein essor, qui partagent de nombreux points communs avec ceux que nous venons de citer. Précarité de l'habitat, caractère provisoire. Les centres de rétention, ces lieux où les gouvernements parquent les migrants illégaux en attendant un hypothétique retour dans leur pays d'origine, sont plus d'un millier à l'échelle mondiale. On estime qu'un million de personnes y sont passées en 2013. De toutes les catégories évoquées, ce sont les endroits où l'enfermement est le plus sévère et la tendance, en Europe notamment, est à l'allongement des périodes de détention. Les camps de travailleurs, surtout présents dans les pays émergents comme le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud ou les Émirats arabes unis, mais aussi dans le sud des États-Unis et de l'Europe, Italie, Espagne, Chypre, répondent à une logique purement économique. Dans ces régions, le développement de l'agro-industrie, avec les plantations sucrières par exemple, et le lancement de chantiers titanesques, routes, barrages, suscite un énorme besoin de main-d'œuvre qu'on n'hésite pas à aller chercher directement à l'étranger. La forme du camp permet d'accueillir ces gens utiles économiquement, mais indésirables socialement.
Certains n'hésitent pas à parler d'esclavage moderne à propos des conditions de travail et de vie dans ces camps. Il est certain que les personnes qui sont accueillies dans les camps de travail, généralement des migrants, ne bénéficient pas des mêmes salaires ni des mêmes droits que les travailleurs nationaux. Dans le livre, le géographe Tristan Brucelet évoque le cas d'ouvriers népalais au Qatar qui se voient confisquer leur passeport par leur employeur et dont la vie se résume aux allers-retours entre le chantier où ils travaillent et les baraquements où ils sont logés. Ils n'ont guère le loisir de voir autre chose puisque leur employeur vient les chercher le matin et les ramène le soir après leur journée de travail. Certains camps existent depuis des dizaines d'années, comme le camp palestinien de Shatila au Liban, établi depuis 1948, ou le camp de Dadaab que vous évoquiez précédemment, construit il y a plus de 20 ans. Peut-on encore parler de solutions provisoires dans ces conditions ? En fait, c'est l'autre aspect de ce monde des camps sur lequel nous insistons dans le livre. Ces lieux qui sont censés répondre à des situations d'urgence ont tendance à s'installer dans la durée. Et ce, bien que le mythe du retour reste vivace chez les personnes déplacées, comme au sein des organismes et des gouvernements qui gèrent ces camps. Les camps deviennent un lieu de vie que les habitants finissent par intégrer à leur quotidien. On le voit à la transformation matérielle de ces endroits. Les gens s'approprient leur habitat, le modifient, et les camps deviennent ce paysage hybride entre village et bidonville. Certains ont même fait l'objet de reconstructions, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Et c'est le cas du camp de Nahr al-Bared au Liban, détruit en 2007 à la suite d'un conflit entre l'armée libanaise et une organisation islamique, et rebâti à la demande des réfugiés. Le nouveau camp, qui suit les contours de l'ancien, a été élaboré suivant un vrai plan d'urbanisme, grâce à la participation d'architectes et d'urbanismes palestiniens et internationaux. Avec ce site, décrit dans l'ouvrage par l'anthropologue Nicolas Puig, on bascule dans une situation inédite. Administrativement, ces personnes sont toujours encampées, mais il y a une vraie reconnaissance urbaine de leur lieu de vie. Alors ces camps qui durent, ce monde dans le monde, ne crée-t-il pas une nouvelle catégorie d'hommes aux droits limités ? Oui, au prétexte de l'urgence, on tolère que des millions de personnes vivent dans des conditions de précarité réputées intolérables par les grandes démocraties. Surtout, ces personnes se voient privées de droits élémentaires comme la liberté de mouvement, bien souvent contrôlée, et l'expression démocratique, puisqu'on ne demande pas aux réfugiés et aux déplacés leur avis sur leurs conditions de vie ou sur la façon de gérer le lieu où ils vivent, et cela parfois depuis des années. Ainsi, le confier un peu abruptement un responsable de camp dans une réunion d'humanitaire, un camp n'a pas besoin de démocratie pour fonctionner. Et lui-même venait de refuser de traiter avec le représentant que des chefs de famille du lieu avaient pris l'initiative d'élire. Donc l'économie des camps est une véritable industrie dans laquelle des entreprises, des ONG se sont spécialisées. Autre particularité de ce camp, il est au cœur de vrais enjeux économiques. Et à plus d'un titre en effet. D'abord parce que de nombreux habitants qui vivent travaillent, même s'ils ne sont pas censés le faire, soit à proximité immédiate du camp, soit dans la ville la plus proche. Ce faisant, ils participent au tissu économique local. Ensuite, parce que ces infrastructures, qui peuvent atteindre plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers de personnes, font l'objet d'une logistique complexe. Quand on construit un camp de réfugiés en plein désert, il faut ériger les tentes et les baraquements, assurer l'approvisionnement en eau, organiser la livraison de nourriture, tracer des pistes. C'est une véritable industrie dans laquelle des entreprises et des ONG se sont spécialisées. En France, certains camps de rétention sont construits et gérés sur le modèle de partenariats publics-privés et font intervenir des groupes comme Vinci ou Bouygues. Et certains donc auraient intérêt à ce que les camps continuent d'exister dans ce paysage mondial. Il ne faut pas exactement faire de faux procès. Les ONG qui y travaillent sont animées des meilleures intentions. Mais pourtant, si les camps ont encore de beaux jours devant eux, certaines études estiment que regrouper des personnes dans ces vastes infrastructures qui n'est pas aussi économique qu'il y paraît et invite à trouver des solutions alternatives. À ce sujet, une expérience intéressante est d'ailleurs en train de se dérouler au Liban. Même si officiellement le pays refuse d'installer des camps du Haut Commissariat aux réfugiés pour les réfugiés syriens, des milliers de personnes ont quand même passé la frontière syro-libanaise pour fuir les combats. Et pour les accueillir, puisqu'aucun camp officiel n'est construit, ce sont des particuliers qui proposent leur propre terrain à ces personnes, moyennant finances. Certains crient à l'exploitation de la détresse humaine, mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas là une piste pour insérer plus harmonieusement les réfugiés dans les pays d'accueil. On pourrait ainsi imaginer que ce soit le Haut Commissariat lui-même qui rémunère directement les habitants qui accueillent des familles de réfugiés. Signe d'une évolution des mentalités sur le sujet, même si cette structure, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, est une structure onusienne, a œuvré à la création de centaines d'infrastructures et qu'elle commence maintenant à réfléchir, peut-être à sortir du modèle de tout camp. Alors donc c'est un extrait hein, de ce livre où il aborde les questions. Ce qui est intéressant, c'est au niveau mondial et de ne pas faire la séparation. On enferme des gens à la fois les camps de travailleurs, des camps de réfugiés, etc.
Ok, voilà. Intéressant. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce du film « Qui a tué Ali Ziri » de Luc Ducaster.
Il faut résister aux violences policières, résister à l'injustice.
Nous demandons au procureur de la République de décider la mise en examen des policiers impliqués dans la mort d'Ali Ziri.
Le procureur adjoint du tribunal de grande instance de Pontoise a requis un non-lieu dans l'affaire Ali Ziri.
Thousand trees bearing strange fruits, blood on the leaves, and blood
at the roots. Que la police a une responsabilité première sur la mort de Monsieur Ali Ziri.
La vidéo aujourd'hui, elle est sous scellé.
La vidéo du commissariat.
Du commissariat. Donc, cela, même le juge d'instruction ne l'a pas visionné.
On doit expliquer qu'on ne fait pas le procès de la police, on ne fait pas le procès de la justice, on fait le procès de ces policiers-là. On fait le procès de ces procureurs-là qui ne jouent pas leur rôle.
Voilà, alors du coup, Qui a tué Ali Ziri, film de Luc Ducaster, qui sort ce 7 octobre, donc le 7 octobre prochain. Il est programmé dans deux salles, à Paris et à Argenteuil, et il sera peut-être programmé dans d'autres salles d'ici là. Donc, on peut rappeler très rapidement Ali Ziri, donc un homme de 62 ans, si à peu près, en tout cas un peu plus de 60 ans, qui est mort dans un commissariat de police à Marseille il y a environ un an, et donc toujours la lumière n'est toujours pas faite sur cette histoire, mais en tout cas le film va sortir pour faire parler de cette histoire et peut-être faire avancer le schmilblick aussi. Donc sorti le 7 octobre, surveillez vos salles de cinéma préférées. Ouais.
Et on va terminer par un rendez-vous. Donc demain, la Maison Cure de Midi-Pyrénées annonce à Rinsoble une manifestation à 18h30 qui partira de la place du Capitole.
À Toulouse.
À Toulouse. Et donc, pour expliquer un petit peu la situation là-bas et pourquoi ce rassemblement est organisé, donc il faut savoir que l'AKP, qui est le parti islamiste du président Erdogan, n'a pas obtenu la majorité gouvernementale aux dernières élections législatives du 7 juin 2015. Il a déclaré la guerre aux Kurdes à la suite de ces élections, qu'il tient responsable de sa défaite. Et il a décidé la tenue d'élections anticipées le 1er novembre 2015. Donc depuis le 24 juillet, sous couvert de lutte contre le terrorisme, Erdogan a lancé une guerre sale contre les Kurdes, rompant ainsi le processus de paix pour lequel la partie kurde avait fait maints efforts et concessions durant les 2 ans et demi de négociations. Depuis cette date, l'armée turque bombarde quotidiennement les bases de la guérilla kurde au sud Kurdistan, donc en Irak, violant impunément les normes les plus fondamentales du droit international. Donc, parallèlement à cette campagne militaire qui a causé la mort de plusieurs civils, l'État turc sème la terreur au Kurdistan et provoque la haine et la violence contre les Kurdes partout en Turquie. Au cours des 2 derniers mois, près de 1500 militants du HDP, donc qui est le Parti démocratique des peuples, dont 7 maires ont été arrêtés. Plusieurs villes du Kurdistan ont été placées sous état d'urgence. La police et l'armée turque y mènent une répression sanglante qui n'a rien à envier à celle des années 90. Donc jusqu'à présent, plus de 50 civils, dont de nombreux enfants, ont été tués et des centaines ont été blessés. donc on le rappelle, en 2 mois, et la plupart par des tireurs d'élite, en 1 mois et demi, et la plupart par des tireurs d'élite de la police embusqués sur les toits. Bon, il faut savoir aussi que la ville de Cizre est soumise à un blocus depuis 1 semaine, donc les habitants n'osent plus sortir de chez eux, de peur d'être visés par les snipers de la police, donc plusieurs personnes blessées sont mortes faute de pouvoir se rendre à l'hôpital. Et alors qu'une délégation du HDP comprenant des élus et des ministres est en marche vers la ville dans l'espoir de mettre fin au blocus, les forces de sécurité continuent à terroriser la population. Rien qu'au cours de la nuit dernière, donc 8 personnes ont été tuées, ce qui porte à 16 le nombre de civils tués dans cette ville depuis 1 semaine. Donc on peut dire que depuis le début du conflit entre... Enfin, c'est la première fois depuis le début du conflit entre l'État turc et le mouvement de libération kurde, il y a 32 ans que l'on assiste à des violences contre les Kurdes commises à une aussi grande échelle. Donc, ces pogroms menés de façon planifiée et coordonnée sont le résultat des provocations d'Erdogan qui cherche à diviser la société en attisant des conflits interethniques et en stimulant le racisme anti-kurde. Donc ça, c'était des éléments tirés d'une analyse du Conseil démocratique kurdes en France. Et donc je rappelle que demain la maison des Kurdes de Midi-Pyrénées appelle à une manifestation place du Capitole à 18h30, donc pour dénoncer les agissements de l'État turc qui donc terrorise la population et la résistance kurde.
Voilà, donc on conclut cette émission Bruit de tôle. C'est en direct le jeudi, mais vous pouvez nous réécouter la rediffusion demain, le vendredi, de 17h à 18h. Vous pouvez toujours nous écrire à Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, c'est Bruit de tôle, donc 31400 Toulouse, ou nous envoyer un petit message à bruit au pluriel de tôle, T-O-L-E-S, @no-log.org. Et puis, vous pouvez réécouter cette émission, celle-ci et bien d'autres, en allant tout simplement sur le site de canalsud.net et vous pouvez donc les télécharger ou les réécouter.
Bonne soirée à toutes et à tous. Bon courage à ceux qui sont à l'intérieur.
Et on rappelle que la semaine prochaine, c'est l'émission de la clim, donc nous, on se retrouve dans 15 jours.
Voilà. La clim, c'est par rapport aux migrants, je rappelle. Ouais.
Bonne soirée.
Pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse, c'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés quand on sera au bout du monde. Il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire, chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.